fêter le bicentenaire de l'installation des académies dans l'ancien collège des Quatre Nations, devenu le palais de l'Institut de France, c'est ce que Canal Académie vous propose dans cette émission. Nous évoquerons pour vous les diverses manifestations organisées à l'occasion de ce bicentenaire, en rappelant les moments forts de l'histoire de l'Institut de France et en vous présentant les publications, ouvrages et revues spécialement publiées pour vous permettre de découvrir ou de mieux connaître l'Institut. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Marianne Durand-Lacaze pour rappeler la composition de l'Institut de France.
Alors, l'Institut de France est le regroupement de 5 académies. L'Académie française, fondée en 1635, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, fondée en 1663, l'Académie des sciences, fondée en 1666, l'Académie des beaux-arts, créée en 1816 par la réunion de l'Académie de peinture et de sculpture, fondée en 1648, de l'Académie de musique, fondée en 1669, et de l'Académie d'architecture, fondée en 1671. Et cinquième académie, la Benjamine, l'Académie des sciences morales et politiques, fondée en 1795, supprimée très rapidement en 1803 et rétablie à l'initiative de Guizot en 1832. Il gère le millier de dons, legs et fondations dont il est dépositaire, se donnant ainsi les moyens d'exercer la première de ses missions, la diffusion du savoir.
Et alors les académiciens s'appellent comment entre eux, Marianne ?
Alors, entre eux, ils s'appellent confrères. Justement, à sa création, en pleine période révolutionnaire, l'Institut a souhaité réunir tous ses académiciens sous un même toit, sous une même institution, en leur conférant un rang de même égalité.
Alors c'est ce bicentenaire, ça fait donc 200 ans que nous fêtons en ce moment. Écoutez ce que dit de l'Institut de France l'écrivain Ernest Renan en 1867.
L'Institut est une chose qui est propre à la France. Plusieurs pays ont des académies qui peuvent rivaliser avec les nôtres pour l'illustration des personnes qui les composent et l'importance de leurs travaux. La France seule a un institut où tous les efforts de l'esprit humain sont comme liés en un faisceau où le poète, le philosophe, l'historien, le critique, le mathématicien, le physicien, l'astronome, le naturaliste, l'économiste, le juriste, le sculpteur, le peintre, le musicien, peuvent s'appeler confrères.
Rappelons aussi, car ce n'est pas du tout inintéressant, la manière dont Donou, l'un des membres de la Convention, l'un des auteurs de la Constitution de l'an 3 et l'organisateur de l'Institut, exaltait la mission de cette nouvelle institution en 1795.
En pleine possession de la liberté, la République nous appelle pour rassembler et raccorder toujours les branches de l'instruction, reculer les limites de la connaissance, récompenser leur succès, recevoir, renvoyer, répandre toutes les lumières de la pensée, tous les trésors du génie.
Quand, comment a été créé le palais de l'Institut de France ? Un bref rappel. Les académies royales étaient installées à la fin du XVIIe siècle au palais du Louvre, c'est-à-dire sur la rive droite de la Seine. La salle des cariatides du Louvre abritait alors les séances de l'Institut au moment de sa fondation. Nous sommes en 1795.
Le 25 octobre 1795, trois brumaires de l'an 4, le directoire fonde l'Institut national des sciences et des arts en trois classes. Sciences physiques et mathématiques, sciences morales et politiques, littérature et beaux-arts. Les académies d'Ancien Régime avaient en effet été supprimées par un décret de la Convention pris le 8 août 1793 sur le rapport de l'abbé Grégoire et du mathématicien Rome. Le directoire nomme les 48 premiers membres. 96 autres seront cooptés pour atteindre le chiffre de 144. 24 étrangers sont associés. Le 15 frimaire en 4, 6 décembre 1795, les membres nommés se réunissent au Louvre, salle des cariatides, puis procèdent à l'élection de leurs futurs confrères. Le 20 décembre 1795, l'Institut se rassemble pour la première fois en séance plénière. La première réunion solennelle intervient le 4 avril 1796 en présence des 5 chefs du directoire et de 1500 personnes au Louvre, comme les fois précédentes, dans la salle des cariatides, rebaptisée « Salle des grands hommes ». Par la suite, les séances publiques se tiennent au premier étage, salle des gardes. Toutefois, la restauration du Louvre, à partir de 1801, et son utilisation comme musée, conduisent à décider le transfert de l'Institut dans un autre bâtiment.
L'Institut doit donc déménager. Une solution est trouvée, traverser la Seine et s'installer de l'autre côté, rive gauche. Nous sommes en 1805, le 20 mars 1805. Le Collège des Quatre Nations est affecté à l'Institut sous le nom de Palais des Beaux-Arts. Entre 1802 et 1804, un pont piéton à péage, la passerelle des arts, c'était le premier pont métallique de Paris, permet de relier de part et d'autre de la Seine le Louvre à la rive gauche. Le nouvel occupant, les membres de l'Institut, doit partager les lieux avec les différentes sections de l'École des Beaux-Arts, section peinture, sculpture et architecture, auxquels ils ont déjà été attribués en novembre 1801. La cohabitation entre les académiciens et les élèves des Beaux-Arts n'est pas toujours facile, mais la nouvelle situation est tout de même jugée préférable à la situation antérieure au Louvre. Monsieur Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, souligne l'importance de ce déménagement et l'intérêt du nouvel emplacement. Écoutons-le, Fernand Guillot.
En donnant l'ordre d'installer l'Institut de France dans les bâtiments du collège fondé un siècle et demi plus tôt par le cardinal Mazarin, Napoléon avait d'abord en tête l'urgente nécessité de libérer le palais du Louvre de ses multiples occupants. Maintenir en place sous un nouveau vocable unificateur des anciennes académies et les écoles d'art, qui leur étaient étroitement liées, c'était paralyser le développement du grand musée parisien et national dont l'empereur voulait faire le phare artistique de l'Europe en réunissant dans sa capitale les plus grands chefs-d'œuvre de l'art. Or, il se trouve que la décision libératoire allait soudain donner un éclat inattendu à un édifice dont l'affectation était jusque-là indigne de sa beauté et lui assurait une destinée qui dépasserait de loin la vocation qui lui avait été assignée par son fondateur. Tout en réalisant au cœur du Paris impérial un des objectifs du programme d'équipement culturel, la décision utilitaire de 1805 conduisait en effet à l'exaltation d'une architecture symbole qui apparaîtra rapidement comme la seule capable d'accueillir la nouvelle assemblée de savants chargée de représenter les valeurs civilisatrices de la Rome du nouveau régime. Les académies royales étaient des compagnies séparées, gardant avec le pouvoir monarchique des liens quasi domestiques. L'empereur voulait au contraire institutionnaliser un corps unique et indépendant, dont l'installation dans un monument, au sens le plus fort du terme, marquerait clairement l'éminente mission. Il aurait pu faire construire un palais à colonnades pour le nouvel institut, tout comme il voulait le faire pour une grande bibliothèque impériale. Le choix d'investir le collège Mazarin était une décision autrement originale. Le plus harmonieux panorama de la capitale, là où la Seine coulant entre deux rives de palais rivalise avec le canal Grande de Venise, ne laissait certes pas insensible le maître de l'heure. Et décidément, l'aérienne passerelle, jetée dès 1802 sur le cours du fleuve, méritait bien son nom de Pont des Arts, puisqu'elle réunissait le musée des arts et le palais des arts. Ses valeurs sont éternelles. Aujourd'hui encore, le site est à Paris le plus généralement admiré des Français et des étrangers. Et le prestige de la coupole, souligné par l'éclat de ses dorures, donne au paysage un caractère quasi sacré, car le culte de l'esprit a succédé au culte divin dans l'Église des Quatre Nations.
Le texte que vous venez d'entendre est dû à M. Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est extrait de l'ouvrage « Le palais de l'Institut, deux siècles d'histoire ». Cet ouvrage est paru aux éditions Nicolas Chaudin. Un ouvrage tout spécialement publié à l'occasion de ce bicentenaire de l'installation des académies dans leur palais. Un ouvrage que nous allons examiner ensemble en détail dans un petit moment. Je vous propose une brève pause musicale. Centenaire de l'installation des académies, 1805-2005, dans le palais de l'Institut, tel est le thème de notre émission. À l'occasion de cette installation, plusieurs publications ont été spécialement éditées. Commençons par la présentation d'un très bel album intitulé « Le palais de l'Institut, deux siècles d'histoire », un album que nous présente Marianne Durand-Lacaze.
Alors oui, effectivement, c'est un ouvrage magnifique. Il s'intitule « Le palais de l'Institut » avec pour sous-titre « Du Collège des Quatre Nations à l'Institut ». Il a été dirigé par Jean-Pierre Bablon, membre de l'Institut, président de la Fondation Jacques-Marandré et également conservateur de l'abbaye royale de Chaly. Alors, le livre retrace l'histoire de ce monument symbolique, depuis le vœu de Mazarin concrétisé par l'architecte Levaux jusqu'aux aménagements les plus récents. C'est un très très beau livre avec une iconographie très riche, les reproductions de tableaux, de gravures, de plans architecturaux montrent toute l'évolution du bâtiment. On prend plaisir à regarder les plans de Levaux, de Dorbet, de Vaudoyer, des différents architectes qui ont fait évoluer ce bâtiment. L'ouvrage explique donc vraiment l'histoire de l'architecture, du collège à sa création, son aménagement lorsque l'Institut de France s'y installe, puis tout au long du 19e et du 20e siècle. Un chapitre est consacré à la restauration des portraits de la grande salle des séances, c'est en fait la salle de travail des académiciens. Un chapitre en fin d'ouvrage reprend les 50 dates qui ont fait l'Institut, c'est très intéressant et c'est un excellent repère chronologique qui fait de l'ouvrage vraiment un livre très complet et qu'on a plaisir à lire.
Alors, est-ce que ces aquarelles, ces photographies dont vous parlez ne faisaient pas l'objet d'une exposition récente ?
Alors, effectivement, la dernière partie de l'ouvrage est consacrée au catalogue même de cette exposition qui avait pour titre « Le palais de l'Institut à travers les arts » et qui reprend vraiment toutes les reproductions des pièces présentées lors de l'exposition. Et là aussi, on a une très grande variété de pièces. Ce sont des plans comme des médailles, des assiettes, des photographies, des cartes postales, des dessins, y compris des caricatures. On a tous les styles, toutes les époques, jusqu'effectivement à des caricatures à la fois du 19e et jusqu'aux plus récentes, au 20e siècle, un dessin de Saint-Pé, par exemple.
Autrement dit, le palais de l'Institut est une source d'inspiration pour tous les artistes, toutes sortes de techniques artistiques. Je précise que cet ouvrage, dont je rappelle le titre « Le palais de l'Institut, deux siècles d'histoire », est en vente au palais de l'Institut, ça ne surprendra personne, 23 quai de Conti à Paris, dans le 6e arrondissement. Un autre livre, alors publié justement pour attirer l'attention des lecteurs sur le palais de l'Institut, un autre magnifique album, alors qui lui est tout à fait différent et qui est intitulé « Gloire de marbre », qui bénéficie d'un avant-propos de Maurice Druon. Marianne, un mot sur cet ouvrage.
Alors effectivement, les auteurs de l'ouvrage explorent ici l'histoire du buste à travers la collection de l'Institut, qui est une véritable exaltation des vertus individuelles et miroir de l'âme. Il s'agit de la première étude sur l'art du portrait officiel sculpté en France.
Et les auteurs ?
Alors, les auteurs en sont Christiane Dautal, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis et membre de la Casa Velázquez, docteur en histoire de l'art, et puis Nicole Garnier, conservateur en chef du patrimoine, chargée du musée Condé.
Alors, puisque cet ouvrage « Gloire de marbre » est préfacé par M. Pierre Messmer, actuel chancelier de l'Institut de France, je vous propose que Fernand Guyot lise pour nous le texte de cette préface.
Le visage des anciens fut l'objet d'un culte dans l'ancienne Rome. Les bustes en dérivent en ligne directe, ne serait-ce que par l'étymologie. Le bustum n'est autre que le bûcher funèbre sur lequel se pratiquait la crémation des cadavres. Sur ces édifices de bois était placée la reproduction de la figure du mort, l'égie, le plus souvent en cire, faite à sa ressemblance. En tant que forme esthétique, le buste a conservé ce lien puissant avec la mort. L'un des inventeurs du genre au XVe siècle, Donatello, a pris son art en travaillant à la confection des masques funéraires qui habillaient les botti de l'église Santa Annunziata de Florence, ces mannequins habillés représentant les membres de l'aristocratie urbaine. Cette filiation romaine, transmise par la Renaissance, donne sans doute l'une des clés essentielles pour comprendre l'engouement que le XIXe siècle connut pour ce genre d'expression artistique. La seconde moitié du XVIIIe siècle avait en effet inauguré l'un de ces nombreux retours à Rome qui ont scandé deux millénaires d'histoire occidentale. De cette antiquité chaque fois imaginée, le XIXe siècle retint le culte des ancêtres et des traces de leurs vertus. Quel objet d'art, mieux que le buste, pouvait exprimer ce besoin de conserver en mémoire le souvenir des grands hommes, réduit à leur visage, figé le plus souvent dans le marbre, dans une posture visant à imiter l'expression de la vie avec un souci particulier apporté à la ressemblance, les grands anciens pouvaient continuer à parler à leurs successeurs. Car le visage est parole, dirait Lévinas. Le buste assume trois fonctions bien précises. Mémorielle, exemplaire et commémorative. Il est support de mémoire, tout d'abord. Mais cette mémoire se doit d'être rappelée en raison de la valeur qui se rattache, ou que l'on attache, à celui dont on se souvient. Comment oublier que, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, je ne pouvais quitter mon bureau sans me retrouver face à face avec Guizot, le refondateur de l'institution. Le buste est commémoratif, enfin. Il donne l'assurance de l'immortalité et exprime la reconnaissance de mérites insignes. Autant de dimensions qui l'ancrent dans le monde académique. Rien d'étonnant donc à voir le souci constant que portèrent à cette question l'administration des Beaux-Arts et la commission administrative de l'Institut de France jusqu'au début du XXe siècle. C'est l'un des grands mérites du travail réalisé par Mme Christiane Dautal avec le concours de Mme Nicole Garnier que de nous faire redécouvrir cette passion de nos prédécesseurs pour les bustes. L'autre est bien entendu de nous livrer une galerie complète des figures célèbres dont la mémoire parut digne d'être inscrite dans le marbre. Car la réalisation d'une galerie où seraient rassemblées toutes ces œuvres ne put jamais être menée à bien. Ce désir longtemps inassouvi trouve aujourd'hui, dans la véritable somme que représente ce catalogue, son accomplissement. Que tous ceux qui ont collaboré à la longue aventure que fut sa conception, en particulier M. Serge Lemoine, président du musée d'Orsay, et toute son équipe, soient sincèrement remerciés, tout comme ceux sans la participation desquels cet ouvrage n'aurait pu voir le jour, la Fondation Bettencourt-Schueller, la Fondation Lefort-Beaumont, la Fondation Sophie Germain et la Fondation Cora.
C'était le texte de la préface que M. Pierre Messmer a rédigé pour l'ouvrage « Gloire de marbre ». Quand M. Messmer parle d'un catalogue, on peut tout de même dire que c'est un très bel album de grande beauté, de très belle fabrication. Si vous le voulez, entrons un peu plus en avant dans les détails de la composition de cet ouvrage, Marianne Durand-Lacaze.
Alors, la première partie de l'ouvrage aborde la création au XIXe siècle de cette collection des bustes de l'Institut de France. L'histoire de cette collection est fortement liée à l'Académie des Beaux-Arts qui contribua activement à sa constitution en prenant conscience dès 1845 de son intérêt artistique. Ça, c'est la première partie de l'ouvrage. La seconde est consacrée aux critères de qualité des bustes. L'histoire de cette collection revêt une importance majeure justement dans l'évolution du goût en France au XIXe siècle et au XXe siècle dans le domaine de l'art sculpté. Et enfin, pour compléter cette étude, figure également dans l'ouvrage le catalogue exhaustif de la totalité de la collection et sur les 434 bustes conservés pour la plupart à l'Institut de France, environ 130 sont à Chantilly, au musée Condé. D'autres sont déposés dans des musées de province. Et une grande partie des bustes sont photographiés par M. Patrice Schmidt, photographe du musée d'Orsay.
Donc, nous avons tous envie de feuilleter ce très bel ouvrage « Gloire de marbre » dont je pense qu'on peut l'acheter, je pense aussi, à l'Institut de France, quai de Conti, dans le 6e arrondissement de Paris. Il nous reste maintenant à signaler trois autres publications susceptibles d'intéresser nos auditeurs. D'abord, une édition exceptionnelle en trois tomes d'un recueil, qui est le recueil biographique et bibliographique des membres de l'Institut. C'est un recueil donc qui rend compte de la vie et de l'œuvre de tous ceux qui se sont associés à un moment ou un autre à l'Institut de France. Ce recueil, le second siècle de l'Institut de France, qui couvre donc la période 1895-1995, est réalisé par l'Institut de France sous la direction de M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Marianne, une autre publication à signaler ?
Effectivement, un numéro hors-série de Connaissances des Arts intitulé « L'Institut de France » qui reprend toute l'histoire de la prestigieuse institution. Il est richement illustré, là encore de très très belles photographies, en particulier de l'intérieur du palais. On aperçoit également des photographies de l'intérieur, enfin des bibliothèques. La bibliothèque de l'Institut n'est pas ouverte au public et rarement, enfin il faut le faire sur demande. Donc on a là des vues intérieures du palais un petit peu rare. Et puis il y a également beaucoup d'articles sur toutes les fondations de l'Institut. Et c'est un numéro hors série très très agréable à consulter et très complet.
De belle qualité, belles photos, très beau papier, un numéro à offrir et même à garder dans sa bibliothèque, certainement. Enfin, une dernière publication pour l'occasion de ce bicentenaire de l'installation du palais de l'Institut de France. Un petit journal, un tout petit journal qui a l'avantage au moins de ne pas être trop cher et aussi d'être en français et en anglais. Et ce petit journal présente avec plus de détails les 5 académies, l'ensemble des fondations musées de l'Institut et des académies et les grandes fondations prix de l'Institut. Voilà, donc beaucoup de publications pour fêter ce bicentenaire. Si vous souhaitez vous informer davantage sur le palais de l'Institut de France, les 5 académies qui le composent et leurs travaux, reportez-vous sur le site www.institut-de-france.fr et si vous le souhaitez sur le site particulier de chaque académie, dont celui de l'Académie des sciences morales et politiques, dont je vous rappelle les coordonnées asmp.fr. Merci de votre fidélité à Cadal Académie.